Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans COP Nord. Tous les lundis, on fait parler les supporters de Lille et du Racing Club de Lens. Et ce même après les chasseuses week-end de rêve. Ce week-end pour les Lensois, une victoire 2-1 face à Strasbourg. Se combiner au nul de Monaco et de Marseille. Et voilà donc les 100 et or avec 2 points d'avance sur le 3e à 8 journées de la fin. Mais les Artésiens ont encore 6 points moins que le PSG qui s'était imposé ce week-end et qui sera d'ailleurs leur prochain adversaire. Alors peuvent-ils remonter cet écart et se dès samedi au Parc des Princes? C'est notre débat ce soir. De leur côté, les Lillois se sont inclinés 1-0 à Angers. Les Dogs se sont fait piéger par la lanterne rouge qui ne s'était plus imposée depuis le mois de septembre face à Nice. Alors trou d'air ou inquiétude pour le sprint final? C'est notamment la question qu'on posera à notre supporter lillois du soir, François Stock. Bonsoir François.
Bonsoir Vincent.
Président aussi des Dogs du Net qui a évidemment révisé ses tops et ses flops en ce lundi. Avec nous aussi en plateau, Tao Coubrin, journaliste suiveur du LOSC et du Racing Club de Lens. Bonsoir Tao.
Bonsoir Vincent, bonsoir tout le monde.
Et je n'oublie pas de vous présenter Julien Castagnoli qui est un petit nouveau dans l'équipe côté supporter du Racing Club de Lens et qui est aussi ancien commentateur du club. Bonsoir Julien.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et bienvenue. Donc n'hésitez pas vous à réagir à cette émission. Propos ce soir, c'est avec le hashtag COPNOR sur Twitter. On attend vos messages et on se retrouvera aussi en podcast à la fin de cette émission. Et on commence donc par parler de cette victoire de Lens face à Strasbourg. Résumé de la rencontre et les buts à voir grâce à ce résumé signé Nicolas Flon.
Une 18e victoire cette saison et une place de dauphin confortée. Face à Strasbourg, les 100 et or ont pu compter sur leur défenseur pour l'emporter. Frankowski a marqué le premier dès la 11e minute, puis l'argentin Medina a inscrit le second but lensois en milieu de seconde période. Si Gamero a ravivé les espoirs alsaciens, le RCL s'impose 2-1 et reste à 6 points du leader parisien avant le choc samedi prochain face au PSG.
Et avant de parler des top et flop, quelques chiffres pour parler de cette rencontre finalement plutôt équilibrée entre les deux équipes. 55% de possession côté Lensois, 13 tirs des deux côtés, mais des Lensois plus réalistes avec 9 cadrés contre 3 pour les Alsaciens. Parlons donc de ce fameux top et flop, tes premiers, Julien. Qui pour toi est le meilleur Lensois sur cette rencontre?
Ah bah peut-être sans surprise, Facundo Medina hein, sur ce match. Très bon défensivement. Et puis l'apport offensif, quoi. Medina sait tout faire, il sait défendre, il sait relancer et il sait marquer. Il l'a encore montré samedi soir, vendredi soir.
Medina qui fait l'unanimité, évidemment, sur cette rencontre. Oui. Beau retour dans l'effectif de Medina qui a été longtemps blessé et qui fait donc son retour dans le groupe de Francaise.
Oui, le symbole de sa saison, comme on l'a dit, sait tout faire. Il a su bien compenser les petites erreurs de Danso en première période. Mais voilà, la stabilité à l'état pur.
Medina face à Strasbourg, c'est 91% de passes réussies, 9 ballons récupérés, avec quand même quelques petits points à modérer, puisqu'il a quand même perdu 8 ballons et gagné seulement 30% de ses duels. François, toi aussi, le match de Medina, t'as plu ?
Beau match de Medina, mais je voulais mettre en avant aussi le match de Frankowski, qui est un peu le couteau suisse lensois et qui est un peu placé là où il faut, en fonction des présents à chaque match. Et finalement, il est toujours là. Il fait toujours des prestations, en tout cas celles que j'ai vues, honorables. Et là, il marque en plus un but. Donc, ce sera mon top de ce soir.
Deux défenseurs buteurs, donc, pour les Lensois face à Strasbourg. Le flop, pour toi, le moins bon.
Plus généralement, moi, ce qui m'a inquiété sur le match, c'est la relance. Y a Seco qui a tenté des choses, qui a raté des ballons. Je veux pas forcément dire que c'est que lui. Hein. Danso a perdu des ballons. On a perdu des ballons à 30-40 mètres, qui ont donné des situations dangereuses pour Strasbourg. Heureusement, y a deux facteurs. Strasbourg était quand même pas très inquiétant offensivement, en tout cas en première période. Et puis, il y a ce contre-pressing lensois qui est toujours ultra efficace dès que le ballon est perdu. Dans les quelques secondes, tout le monde se replie. Et donc, il n'y avait plus trop de solutions. Il n'y a eu qu'un tir, je crois, à un moment sur lequel Samba a dû se coucher. Mais sinon,
voilà. Mais c'est vrai que la fin de match était un peu plus dangereuse. Alors, que les Strasbourgeois qui ont été galvanisés par ce but, notamment de Gamero. Ouais, incroyable.
Magnifique but de Gamero. Effectivement, fin de match, c'était un match finalement que les Lensois se sont rendus plutôt faciles, surtout après le deuxième but de Medina. Et puis il y a ce but un peu de nulle part de Gamero, même si c'est sa spéciale en fait. Hein. Il a l'habitude de marquer des buts comme ça. Et voilà, on a vécu une fin de match tendue, avec une situation de possible pénalty dans les arrêts de jeu. On a eu peur jusqu'au bout finalement.
T'as vu François ce que t'as fait? Il y a d'autres maintenant qui peuvent aussi dire des flops, c'est plus un joueur.
Je suis très jaloux qu'on prenne ma spécialité. Non, pas du tout, moi j'ai un flop.
T'as un vrai flop.
J'ai un flop nominatif, alors ça va surprendre. C'est Abdoul Samed qui, je crois, est représentatif de ce que tu disais. Oui, oui. Ça fait plusieurs fois. plusieurs matchs en fait qu'il est un peu en glace. Alors je vois pas tous les matchs de Lens, mais c'est vrai qu'il a fait une bonne première partie de saison et là depuis quelques mois il est un peu en dessous,
hein.
Et tout à fait, et sur ce match là il est un de ceux qui est plus mauvaise note. Il était pas très présent au milieu de terrain, ça explique un peu le problème générique que tu décris.
Si je comprends bien, alors votre analyse, c'est la défense qui a été plutôt très bonne face aux Alsaciens, et le milieu qui est un peu plus pêché, Tao, finalement.
Bah, moi j'allais mettre Seko Fofana, justement, voilà. Qui m'a un petit peu déçu, un peu la tête dans le guidon, mais c'est ça la force de Lens, c'est que on connaît la force de Seko Fofana, ils arrivent à gagner quand même sans un Seko Fofana flamboyant, donc c'est aussi l'une des forces cette année de l'effectif lensois.
C'est pas vraiment le meilleur match des Lensois qu'on a vu cette année.
Non.
Mais ça passe encore une fois, ces trois points, ça veut dire trois points mais qui comptent surtout pour la fin de saison.
Quand on voit le match de Rennes, où effectivement c'est un match pour moi qui est assez référence, hein, de domination en premier mi-temps et de sérénité en deuxième période malgré les assauts rennais. Bon, on se doute qu'on peut pas non plus faire des matchs tout le temps comme ça, hein, y compris pour les plus grandes équipes. Et Lens, dans un match un petit peu plus compliqué, quand même réussi à s'imposer. Et il y a eu d'autres matchs, hein, comme ça dans la saison. Et c'est ce qui fait leur force aussi, hein. C'est cette force collective. Effectivement, quand il y en a un qui est moins bien, les autres sont quand même là.
Donc, c'est pas le jeu, c'est l'enjeu qui a un peu dominé tout.
Tout à fait. Et aussi, malgré ce match pas non plus, pas 100% abouti, Matsels a quand même, le gardien strasbourgeois, a quand même sorti pas mal d'arrêts, faut pas l'oublier. Donc Lens arrive à se créer quand même
comme
pas mal de situations.
Et au final, c'est pas vraiment ce qu'on retient de cette rencontre, c'est vraiment les trois points. C'était l'avis d'Adrien Thomasson à la fin du match.
On aurait aimé avoir un peu plus de maîtrise tout au long de la rencontre, surtout en fin de match où on s'est fait un peu peur, mais le plus important vraiment c'est de l'avoir emporté. Et en fin de saison, on va retenir vraiment le nombre de points, on va pas retenir que c'était poussif aujourd'hui. Donc le plus important, encore une fois, c'est un discours assez répétitif, mais c'est vraiment les trois points.
Un mot peut-être de Florian Sotoka, qui a débuté cette fois latéral, piston droit, qu'on met un peu partout côté lensois. Est-ce que c'est une solution de dépannage, ou maintenant, avec l'arrivée de Fulgini, avec Pereira da Costa, il y a quand même les solutions qui sont... Les postes sont un peu moins nombreux en attaque. Est-ce qu'il s'est trouvé pour toi une vocation sur ce côté droit?
Il est replacé comme ça en piston, c'est pas le premier match. Et comme souvent d'ailleurs, Sotoka, dans l'engagement, il déçoit pas. Et sur ce match-là, il a pas déçu non plus. Donc est-ce que c'est une nouvelle palette pour lui? Je ne saurais pas dire, mais effectivement, il n'est pas décevant.
Est-ce qu'il y a un poste qu'il ne sait pas faire, Florian Sotoka?
Je sais pas, peut-être pas ici en défense centrale, mais
au gardien. Bon, en tout cas, il a l'intelligence dans ses choix. Il est quand même très intelligent. Enfin, on sent qu'il a vraiment de la maturité et l'expérience qu'il faut pour pas non plus sortir totalement des limites du poste. Donc,
sa polyvalence, c'est une des clés cette saison qui fait la réussite des Lensois, le fait d'avoir pu le mettre un peu partout là où il a fallu dépanner.
Je pense que Florian Sotoka, c'est un joueur qui est assez extraordinaire, ce qui se bonifie chaque année. En fait, chaque année il est meilleur, alors que bon, c'est quelqu'un qui a quand même eu un début de carrière assez compliqué. Et chaque année on retrouve un nouveau Florian Sotoka. On l'a vu fringant sur le premier match où il claque un triplé. Il est encore dans une super saison, un joueur de devoir qui est toujours là, qui répond toujours présent. Peu importe le poste, peu importe les circonstances, on sait qu'on peut compter sur lui.
Alors, quand on regarde un peu les autres résultats du haut du classement ce week-end, il y a eu donc match nul de Monaco, match nul de Marseille. Est-ce que cette autre victoire, malheureusement, de Paris, qui est un peu la seule ombre sur ce tableau du week-end, pour toi, est-ce que c'est l'essence même d'un week-end parfait pour les Artésiens?
Je pense que tu l'as très bien introduit, finalement. Tu as parlé de week-end de rêve. On peut pas rêver mieux, si. Peut-être une défaite de Paris à Nice en pensant au titre, mais bon, objectivement...
On pense au titre.
Marseille qui perd.
C'est toi qui lances tout de suite le débat.
J'ai dit si on pense au titre.
Mais est-ce qu'on pense au titre?
C'est compliqué quand même, parce que Paris, c'est quand même une équipe qui, normalement, doit gagner. Et puis finalement, qui a porté, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui vont être... On en saura plus le week-end prochain, évidemment, avec PSG Lens. On sait que ça va pas être facile. C'est facile pour personne, mais on l'a vu, hein, entre Lyon qui est allé gagner à Paris, Rennes qui est allé gagner à Paris, Lille qui objectivement méritait absolument pas de perdre à Paris. Paris. Là,
le constat actuel, c'est que Lens a 6 points de retard sur Paris. Ce qui veut dire que donc, si Lens bat le PSG, Lens revient à 3 points, 6 points d'écart en cas de match nul et 9 points en cas de victoire de Paris. Est-ce que c'est vraiment ce match-là qui va décider plus ou moins si Lens peut jouer le titre? Est-ce que Lens peut rattraper 6 voire 9 points de retard à donc il restera 7 matchs à jouer?
Ça paraît très compliqué au vu du calendrier, mais après ça reste du football. Forcément, tout est possible. En tout cas, je pense que le fait de si Lens perd contre Paris, je pense que clairement ça sera très compliqué de revenir. Mais en cas de match nul ou de victoire, moi je me dis il reste encore des matchs. C'est pas ce match-là qui va décider.
Défaite, par exemple pour toi François, une défaite face à Paris veut dire allez. On vise la deuxième place au mieux.
Oui, aujourd'hui, avant le match de Paris, forcément, les joueurs lensois, le club, les supporters pensent au titre. Enfin, je ne veux pas se cacher. Après, il y a le discours de convenance en disant oui, Paris, c'est fort, mais à un moment, à ce niveau-là du championnat, forcément, à la veille d'un match contre le premier, on pense forcément au titre. C'est vrai que s'ils gagnent à Paris, c'est à Paris ou à Lens, je ne sais
c'est
plus.
C'est à Paris.
S'ils gagnent à Paris, ils reviennent à 3 points. Là, tout est possible. Surtout qu'on n'a pas un Paris qui est très flamboyant cette année, au bord de la crise de nerfs. Donc, ça peut être effectivement une année exceptionnelle pour le club. Maintenant, s'il y a un résultat nul ou s'il y a une défaite, je ne vais pas dire que ce n'est pas grave, mais ils se consoleront avec la deuxième place. La deuxième place, elle est aussi intéressante sportivement que la première. Certes, il n'y a pas le titre, et rien ne remplacera le titre dans un palmarès, mais ils iront vers la deuxième place, ils ont de quoi défendre cette deuxième place, et la fin de saison restera intéressante.
Tu parlais de discours de convenance, on va écouter Francaise justement, qui ne parle évidemment pas encore de course au titre. Pour lui, il faut jouer chaque match comme une finale.
C'était difficile la semaine dernière, c'était difficile contre Angers, en tout cas sur le début de match. C'était difficile ce soir. Donc on s'interdit rien, mais on est aussi assez lucide sur justement la difficulté de gagner ces matchs. Ce que je veux, c'est qu'on joue avec personnalité les 8 derniers matchs, quel que soit... la pression, pour l'instant, le mérite. Je dis bien pour l'instant, le mérite au bout de 30 journées. Mais le championnat, c'est pas 30 journées, c'est 38. Donc il faut qu'on le mérite sur 38.
Alors il y a donc 6 points pour l'instant de retard sur le PSG, mais il y a quand même 2 points d'avance seulement sur Marseille. Ce qui veut dire aussi, fin de saison, tu ne peux pas que regarder devant, il faut aussi que tu regardes un peu derrière.
En fait, j'allais venir, hein, c'est ce qu'a dit Francaise et qu'on vient de revoir. Ne rien s'interdire, je pense que c'est ça l'état d'esprit des Lensois. Et ils ont bien raison de ne rien s'interdire.
Objectivement, mais tu aurais déception si tu n'étais pas premier ou deuxième.
Non, clairement. Troisième, on serait très content, je pense, d'être troisième. On sera européen et on sera ravis de l'être, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai, quand on est deuxième à ce moment-là du championnat, sachant qu'il y a quoi, sur Monaco il y a 5 points.
Oui.
Donc on peut espérer quand même finir dans le top 3. Troisième, je pense qu'on sera satisfait, ce sera la récompense d'une belle saison. Mais c'est vrai que l'accession en Ligue des Champions l'année prochaine va être assez difficile. Il y aura 2 tours préliminaires pour le troisième. Donc c'est sûr que deuxième, c'est beaucoup plus confortable. Donc, quitte à être à cette place-là, autant viser cette deuxième place. Mais on verra bien comment
ça passera donc par un match ce week-end à Paris. On verra ça, donc ce sera samedi à 21h au Parc des Princes. On se quitte quelques instants, une courte page de pub, et ensuite on parlera de la défaite du LOSC, que c'était ce week-end à Angers. On est de retour dans Cop Nord et on va maintenant parler du LOSC qui s'est incliné ce week-end à Angers. Résumé de la rencontre avec Nicolas Flon.
Chez la Lanterne Rouge, le LOSC ne s'attendait certainement pas à vaciller. Angers n'avait plus gagné en championnat depuis septembre. Et pourtant, les Dogues sont largement dominateurs, mais butent sur le gardien du SCO dans un grand jour. C'est le cas de Jonathan David à plusieurs reprises et d'Angel Gomez en seconde période. Lille craque finalement en fin de match, 84e minute. Unou parvient à frapper, Chevalier repousse, mais Sabanovic surgit pour marquer. Le LOSC rechute après 5 matchs sans défaite, mais reste 5e du championnat.
Les dominés n'est pas gagné, 66% de possession pour les Dogues, 15 tirs à 7. 5 tirs cadrés de chaque côté et donc un but pour les Angevins. Top et flop de cette rencontre. Ça va être peut-être un peu plus difficile pour François peut-être de trouver un top. Déjà, rassure-moi, top et flop nominatif.
J'ai du top et flop nominatif.
C'est formidable. Ah, donc un top déjà.
Alors le meilleur joueur lillois du match, je pense que c'était Ben Taleb. Ben Taleb, le milieu de terrain orléanais.
Il est très sérieux.
Orléanais qui est né à Oisem et qui a fait ses formations à Lille. Alors, plaisanterie mise à part, j'ai quand même un top lillois, c'est Chevalier, qui retarde la sanction, entre guillemets, avec plusieurs arrêts. Et puis il y a des joueurs aussi que je voulais mettre en avant, c'est le match sérieux d'Alexandro. On se moque beaucoup de lui, parce que des fois il fait des erreurs, mais là il a un match très sérieux, il s'affirme de plus en plus dans la défense, et aussi peut-être mettre en avant les deux latéraux, Gudmundsson et Timothy Weir.
Mais donc la défense, même si ça ne suffit pas, Tao ?
Moi c'est aussi Chevalier, mais aussi pour une raison que après le but encaissé, on a vraiment senti que c'était le seul joueur du... On avait l'impression que c'était le seul joueur du LOSC qui vraiment haïssait la défaite et qui poussait ses coéquipiers à...
Qui a même voulu aller mettre la tête plusieurs fois sur les coups de pied arrêtés de fin
justement, donc c'est vraiment cet état d'esprit-là que je veux souligner parce qu'il n'a pas été au rendez-vous pour les autres.
Et Julien ?
Pareil en fait, un Chevalier, parce que voilà, il s'est senti concerné quand même jusqu'au bout du match. Et puis un... Aussi pour le look, moi j'ai bien aimé la casquette, ça me faisait rappeler des gardiens à l'ancienne.
Voilà, on va pas te demander ton âge évidemment, effectivement le look à l'ancienne, c'est vrai que la casquette, c'est vrai qu'on est toujours de plus en plus surpris quand on voit ce soleil et donc cette casquette, ce look pour les gardiens.
Rien à dire sur son match. Ouais.
François, en flop maintenant.
Alors en flop... Il y a le choix, on peut citer des joueurs, mais je voudrais mettre en avant en flop. Mais là, plutôt que des joueurs, je voudrais mettre en flop Fonseca. Fonseca pour deux raisons. D'abord, c'est ses commentaires d'après-match ou d'avant-match, qui un discours que j'ai trouvé un peu négatif en disant attention, c'est une équipe dangereuse, Angers, plutôt que de prévenir.
Mais est-ce qu'il n'avait pas raison, justement, tu perds 1-0 contre la Lanterne Rouge, mais... parce que les joueurs n'avaient pas écouté ce discours.
Mais justement, est-ce qu'ils n'ont pas trop écouté ce discours? Et j'aurais préféré qu'ils mettent en place des solutions qui changent, notamment en cours de match, son équipe pour pouvoir apporter des solutions quand ils constatent que l'équipe ne tourne pas.
Mais il fait rentrer deux attaquants. Donc
il fait rentrer deux attaquants, mais c'est pas à la place d'un milieu de terrain.
C'est d'ailleurs seuls attaquants qu'il a sur le banc.
Mais moi, j'aurais choisi d'autres personnes. Après, je suis pas dans le secret des entraînements, mais moi, j'aurais plus fait rentrer un joueur qui a disparu complètement depuis ces semaines, qui est Carlos Baleba, qui, à chaque fois qu'il est rentré, faisait des rentrées plutôt concluantes, qui apportait sa puissance au milieu de terrain, qui aurait peut-être pu créer des espaces à l'intérieur, plutôt que j'oublie même son nom, sur le côté l'attaquant qui est en train de remplacer
Bayo et Virginius.
Il a tellement une prestation insipide que j'en ai oublié son nom. C'est vrai que il y a des joueurs qui mettent du temps à revenir. Est-ce qu'il fallait pas aussi faire rentrer Diakité, peut-être pour faire monter Weir d'un cran? J'ai pas trouvé. Je trouve que Fonseca est un excellent entraîneur quand on considère son style de jeu, le style de jeu qu'il veut mettre en place. Je trouve qu'il manque un peu de cartouche quand on considère le stratégie à court terme.
Alors, c'est-à-dire
ces aménagements
pour le match. On reviendra quand même sur le coaching. Juste, on termine pour vous les top et flop. Est-ce qu'il y a un joueur pour vous qui est le symbole un peu de cet échec lillois?
Moi, j'étais très déçu par André Gomes. Pour le coup, il a sorti des prestations XXL contre des concurrents à l'Europe, justement. Et là, j'ai trouvé sa prestation un peu insipide.
Et Julien?
Moi, je pensais à l'efficacité, tout simplement. Alors, elle va être symbolisée
vous
par Jonathan David. Elle est symbolisée par Jonathan David, mais bon, c'est pas que lui qui a fait un mauvais match face à Angers.
Même personne donc ne souligne celui de Jonathan Bamba, qui semblait lui aussi un peu perdu sur cette rencontre, qui fait partie des deux seuls remplacés. On parlait justement notamment de coaching, on parlait peut-être aussi de confiance. En tout cas, il y a beaucoup de remises en question dans l'effectif. C'était ce que disait Rémi Cabella à l'issue de la rencontre.
Il faut se remettre en question. Dans le football, il n'y a pas de match facile, que ce soit Angers ou Paris. Mais il faut les prendre de la même manière. Voilà, Angers a été meilleur, a eu plus d'envie. Après, on a eu quelques occasions en première où on n'a pas mis au fond et ça paye cash. Je pense qu'il y a eu un bon gardien aussi en face. Donc, on est tous touchés, déçus, mais ce n'est pas terminé. Il reste championnat, il reste encore des matchs. Faut que ce match il nous serve jusqu'à la fin de saison. Ben, on a fait un faux pas, ben, maintenant il ne faut plus en faire.
Tu parlais justement de coaching, François. On a donc les entrées de Bayou, de Virginius. C'est les deux seuls changements que fait Fonseca. Il fait sortir André et Bamba.
Et Bamba.
Peut-être un attaquant en plus. Mais derrière, ça veut dire qu'il reste sur le banc. Tu l'as dit, Baleba, Jonas Martin, Diakité, Yoro et deux gardiens.
Tout à fait.
Est-ce que le problème lillois à l'heure actuelle, c'est pas plutôt le manque de profondeur de l'effectif, au-delà des blessés, donc il y avait Ounas et Zegrova notamment qui étaient absents, est-ce que bah, le seul recrue hivernal, par exemple, c'est Benoît Costil?
Oui, mais je pense
que ça se paye pas.
Si on va revenir sur le mercato, le fait d'avoir fait partir Zedatka, qui est un arrière latéral qui aurait rendu des services dans une période où on a eu des absences à ce poste-là, on va pas revenir là-dessus, on va pas refaire le monde. Simplement, aujourd'hui, je constate que certes, il y a des problèmes d'effectifs, mais il y a des joueurs qui ne jouent jamais. Jonas Martin, qui a un profil milieu défensif, qui aurait peut-être rendu service, qui aurait pu remplacer nommément finalement Benjamin André, Carlos Baleba, je le citais tout à l'heure, Diakité qui revient depuis un match. Alors, au dernier match, il fait rentrer Diakité pour faire monter Ouéa d'un cran. Ça, c'est peut-être ce qu'il fallait faire ce jour-là. Alors que Bayo, bon, certes, il est plus présent devant et c'est un choix qui peut fonctionner s'il marque des buts. Virginus, il est un peu jeune, donc est-ce que défensivement, il n'a pas finalement contribué à déséquilibrer l'équipe encore plus qu'il ne l'était en deuxième mi-temps?
De rotation, donc à souligner côté lillois, peut-être qui peut expliquer.
Moi, je suis d'accord avec François sur les choix de coaching de Fonseca. Hein. C'est pas sur le seul match. Hein. On peut citer Paris, on peut citer Lyon. À chaque fois, c'est des matchs qui échappent aux Lillois, alors que ça devrait pas.
Il est trop fidèle donc à ses principes de jeu, Paulo Fonseca, en un mot, Tao.
Trop fidèle à ses principes de jeu, oui. Bah, de toute façon, ça a été ça. Son souci peut-être en début de saison contre Paris où il a préféré jouer le jeu plutôt que bétonner, voilà, ça va peut-être le poursuivre tout au long de sa carrière, on verra
donc déjà comment il termine sa saison. Je suis désolé François, il faut d'abord qu'on parle du classement de Ligue 1, Lens qui reste deuxième et Lille cinquième, et l'écart qui se creuse entre les deux équipes avec désormais 11 points de mieux pour les hommes de Francaise qui comptent 2 points de plus aussi que Marseille, et le LOSC garde ses 2 points de plus que Rennes, mais à noter Lyon et Reims désormais à 5 points. Au programme, on l'a dit, ce week-end Lens se déplace à Paris samedi à 21h et Lille recevra Montpellier dimanche à 13h. Et on parle notamment cyclisme avec le résumé de ce week-end de sport signé Nicolas Flon.
À 28 ans, il a décroché le premier Paris-Roubaix de sa carrière. Dans l'enfer du Nord, Mathieu Van Der Poel a su déjouer les pièges des 54 km de pavé de la course. Son principal adversaire, Wout Van Aert, n'a lui pas eu cette chance. Le Belge a crevé dans le secteur du carrefour de l'Arbre à 15 km de l'arrivée. Van Der Poel en a profité pour s'imposer en solitaire dans le vélodrome de Roubaix et remporter un quatrième monument. Le premier français, Christophe Laporte, se classe dixième. Samedi après-midi, Alison Jackson a de son côté remporté la troisième édition de la course féminine. Au sein d'une échappée formée au bout d'une vingtaine de kilomètres, la Canadienne a profité d'une chute du groupe des favorites sur les pavés pour s'imposer au sprint. À l'arrivée, elle devance notamment les Françaises Eugénie Duval et Marion Borras, quatrième et cinquième de Paris-Roubaix. Week-end fast pour les équipes nordistes de Betclic Elite. Samedi soir, le Portel a dominé Blois dans un match longtemps indécis. Devant de 5 points à la mi-temps, le SSM a tenu bon en seconde période, porté par son trio Nzekwesi, Mike Seul et Ify, auteur de 53 points. Victoire 79-74, le Portel est 12e du championnat. Gravine Dunkerque a de son côté mis fin à la série de 7 victoires consécutives de l'ASVEL. À domicile, le BCM a d'abord fait jeu égal avec les Rodaniens, 37 partout à la pause, avant de se détacher dans le troisième quart-temps. Avec 20 points de l'Américain Johnson, l'équipe nordiste s'impose 74-68 et pointe à la 9e place de Betclic Elite.
Et à noter que le TLM vient d'égaliser contre Narbonne en quart de finale de play-off de volley. Rendez-vous donc vendredi au Stade pour la suite de ces play-offs. Merci Julien, Tao et François. Nous on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine, salut.